Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est comment, à travers les écrits de presse des femmes, qui composent la majorité de mon corpus, on peut lire la représentation de la ségrégation des espaces urbains et comment les écrivaines composent une posture de flâneuse acceptable au vu de la double injonction qui pèse sur elles, qui se résumerait à 1. Ne pas écrire, 2. Ne pas circuler dans la ville. Donc nécessairement, celles qui ont la prétention d'écrire la ville, de s'approprier cette ville qu'on leur refuse, par un support littéraire, doivent trouver le moyen de faire pardonner la transgression de ces deux espaces symboliques et réels. Alors avant d'analyser précisément le rapport à la ville qui se lit dans ces écrits, je voudrais rappeler rapidement l'exclusion du champ littéraire des femmes au XIXe siècle afin que l'on saisisse mieux ensuite les stratégies d'acceptabilité mises en place pour écrire la ville. Donc, les droits politiques des femmes au XIXe siècle n'avancent pas autant qu'on aurait pu le laisser envisager les revendications révolutionnaires. Malgré une participation active aux insurrections, les femmes, dès lors que le mouvement révolutionnaire s'organise en structure politique, sont exclues du droit de cité. La parole politique des femmes, délivrée dans les clubs, dans les réunions, sera progressivement réduite au silence par des décrets établis par la Convention. Si on prend uniquement l'année 1793, on les voit être exclues de l'armée, on les voit interdites de fonder des clubs féminins, mais aussi d'assister aux séances politiques ou même de se regrouper à plus de 5. Donc on les traite vraiment en ennemis de l'État. Oui, ça fait penser à une loi plus récente. Et il y a un article du Moniteur universel de l'époque qui explique l'exécution d'Olympe de Gouges parce qu'elle a voulu être un homme politique, et là je cite l'article. Napoléon, qui arrive ensuite, n'est pas vraiment connu pour avoir amélioré la situation. Le Code civil, en 1804, établit la minorité perpétuelle des femmes et légalise la violence faite sur les femmes. Donc, pour bien saisir l'esprit qui souffle au début du 19e, voici quelques mots de l'empereur. La femme est notre propriété car nous ne sommes pas la sienne, car elle nous donne des enfants et l'homme ne lui en donne pas. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. De même, Sylvain Maréchal, qui affiche pourtant une volonté d'abolir la servitude, propose en 1801 un projet de loi fictif, certes, mais qui fait beaucoup de bruit à l'époque et qui interdirait aux femmes d'apprendre à lire, son premier argument étant qu'il ne sert à rien aux femmes d'être instruites dans la mesure où leur destinée se résume au mariage et à la maternité. Donc, si les femmes ne sont pas censées avoir besoin de lire, imaginez ce qu'on pense de celles qui écrivent des livres. On ne sait même pas comment les appeler, tant elles bouleversent l'ordre naturel de la société. Voilà ce qu'en dit un critique de la Revue des Deux Mondes en 1942. Comment appeler une créature dont le sein destiné à allaiter des enfants et à renfermer des joies maternelles demeure stérile et ne bat que pour des sentiments d'orgueil. En vérité, je ne crois pas qu'il y ait dans la langue qui se parle et même celle qui s'écrit un nom qui puisse lui convenir. Donc on voit aussi beaucoup de caricatures, comme celle de Daumier dans le Charivari, dans lesquelles on voit la femme qui écrit, donc la bas bleue, maigre, décharnée, voûtée, avec un enfant qui se noie ici, ou un mari famélique en arrière-plan, puisqu'elle ne le nourrit plus. L'activité littéraire des femmes les divertirait donc de l'éducation des enfants, de la tenue du foyer, elles perdraient encore leur sens naturel du dévouement. Et quand l'activité littéraire n'est pas frontalement et positivement rejetée, elle est encadrée, contrainte, le discours critique renvoie les femmes vers les genres personnels, le journal intime, la correspondance, le roman sentimental ou alors la poésie lyrique. C'est ainsi que le formule un académicien, Louis-Simon Auger. Elles ont prouvé depuis longtemps leur aptitude particulière pour ce genre d'ouvrage où il faut plus de sentiments que de pensées, plus de passion que de raison, plus de délicatesse que de force. En bonne économie politique, on doit leur abandonner du moins les travaux qui s'accordent avec leur organisation physique et morale. Donc vous saisissez là, avec ce rappel rapide, le poids social et les contraintes formelles qui pèsent sur les ambitions littéraires des femmes. Ce cadre contraignant va en partie expliquer la forme que prennent les récits de flânerie des femmes. Donc j'aimerais maintenant aborder quelle représentation de la circulation des femmes dans la ville est donnée à lire, notamment par les flâneurs. Alors en littérature, au XIXe siècle, celui qui est représenté comme circulant dans la ville, c'est le flâneur. Apparu au début du XIXe siècle, cette posture établit un rapport entre l'homme de lettres et la ville moderne. Elle se définit à partir d'ouvrages du début du siècle, comme l'ermite de la Chaussée d'Antin d'Étienne de Jouy, Paris ou le livre des 101, ou encore les Français peints par eux-mêmes. Autant d'ouvrages, collectifs pour certains, qui prennent les espaces parisiens comme cadre et comme objet, et qui définissent le flâneur comme un homme, socialement et intellectuellement distinct du peuple. Ce faisant, il se confond avec la figure de l'artiste éclairé, bourgeois, dont le regard perçant va embrasser toute la foule confuse et lui délivre un message le guidant dans son appréhension de la nouvelle vie. Il est en somme, et pour citer Jérôme David, qui travaille sur les flâneries avant Baudelaire, il est en somme chargé de la lisibilité de la ville, un homme occupé à goûter les plaisirs de l'observation en milieu urbain. Donc ce qui ressort de ces textes, c'est encore que la flânerie est une expérience strictement masculine, dans laquelle les femmes sont représentées comme des objets sensuels. Si l'on prend par exemple la définition du flâneur, faite par Louis Huard dans sa Physiologie du flâneur, il nous dit qu'il faut de bonnes jambes pour arpenter toutes les promenades, tous les trottoirs, tous les quais, toutes les places, tous les boulevards de Paris, de bonnes oreilles pour ne rien perdre de toutes les remarques spirituelles ou plaisamment stupides que l'on entend dans tous les groupes qui se rassemblent d'ordinaire dans les lieux publics. Enfin, il faut surtout de bons yeux pour apercevoir toutes les jolies marchandes, tous les visages grotesques, toutes les affiches baroques et toutes les jambes fines que l'on rencontre dans le cours de ces flâneries. Donc ce qui caractérise le flâneur dans cette définition, c'est d'abord l'exploitation intellectuelle du matériau sensoriel glané. Les bonnes jambes, on le voit, servent à parcourir Paris dans toute sa diversité, impliquant une liberté de circulation totale que n'ont pas les femmes, on le verra. Les oreilles doivent entendre au sens de comprendre tous les discours, les yeux doivent non plus voir mais observer, activité intellectuelle qui nécessite une instruction solide à laquelle les femmes n'ont pas non plus accès. Donc les femmes ne sont pas attendues, invitées à investir cette posture de flâneur. Cela dit, leur exclusion n'est pas non plus positivement affirmée dans ces textes, mais en tout cas, elles n'y sont jamais représentées ainsi en tant que sujet pensant. On les retrouve en revanche comme des objets regardés. Dans cette citation-là, elles sont des objets de beauté, ce sont les jolies marchandes, ou de sensualité avec la métonymie des jambes fines de la femme réduite à une partie en plus assez symbolique de son corps. Donc Catherine Nessy, qui étudie les femmes et la ville à l'époque romantique, résume ce rapport que le flâneur entretient avec les femmes comme, et je la cite, « la maîtrise fantasmée des femmes présentes dans l'espace public et qui forment un immense sérail privé pour le flâneur ». Donc dans ces flâneries, les femmes en sont encore le motif, celles qui guident le chemin de celui qui musarde. Ce chemin est tracé par les femmes qui l'estiment séduisante. Vous le voyez bagnaudé dans le palais des rois, dans le temple du Seigneur, dans le sanctuaire de la justice, partout où se rencontrent des jolies femmes ou des hommes ridicules. On voit vite en quoi les flâneuses pourront être empêchées de s'inscrire dans cette posture. La morale du temps ne les autorise pas à faire état de leur regard sensuel d'une part, et encore moins s'il est porté sur d'autres femmes. Comme le précise Janet Wolfe dans les récits de flânerie, dans la sphère publique, les femmes apparaissent seulement à travers leurs relations avec les hommes et via un parcours illégitime ou excentrique dans l'arène masculine, ça va être dans le rôle de prostituée, veuve ou victime de meurtre. À titre d'illustration, voici une figure féminine que dépeint Eugène Briffaut dans le livre des 101. Il existe à Paris une femme mystérieuse. Elle ne sort que la nuit. Elle se promène ordinairement dans les environs de la place Vendôme. Malheur à celui qu'elle séduit et retient. Il se trouve possesseur d'une femme, réduite par sa laideur, à faire un aussi ignoble trafic que la nuit, au sein de la plus complète obscurité. On saisit très bien de quoi il s'agit ici. Donc ce qui est dit aux femmes par les flâneurs, c'est que celles qui circulent dans la ville vont être l'objet de regards lascifs ou alors assimilées à des prostituées. La ville est donc perçue comme un endroit dangereux pour la vertu des femmes, la vertu résumée ici à la chasteté, est le marqueur du féminin acceptable, idéal même, dans l'éducation donnée aux jeunes filles. Celle qui perd sa vertu devient socialement exclue, monstrueuse. La ville du XIXe siècle est donc donnée à voir comme dangereuse pour les femmes, message que l'on peut supposer impliquer un sentiment de peur. L'exclusion des femmes de l'espace public est encore perceptible dans l'usage extrêmement complexe de la ville qu'on les invite à adopter. Les manuels de savoir-vivre fleurissent au XIXe siècle et particulièrement pendant la monarchie de Juillet. Ainsi, ces manuels vont dicter toutes les conduites à tenir en société à partir d'un modèle aristocratique. On trouve dans un manuel de savoir-vivre fameux du temps, écrit par Madame Selnard, un chapitre consacré à la circulation dans les rues intitulé « De la bienséance dans les rues ». Et selon l'auteur, le premier devoir d'une femme dans la rue est de rester élégante, dictat qui entraîne alors une véritable méthodologie de la marche. Donc en fait, pour parcourir la ville sans se crotter, c'est le terme choisi, il s'agit de « il faut bien prendre garde à ne poser le pied que sur le centre du pavé » et jamais sur les bords, car on glisse inévitablement dans l'intervalle d'un pavé à l'autre. Il faut commencer par appuyer la pointe du pied avant le talon. Et même quand la boue est très considérable, on n'en doit appuyer le talon que fort rarement. Tout en pinçant le pavé, c'est l'expression reçue, une dame doit relever agréablement sa robe un peu au-dessus de la cheville du pied. De la main droite, elle en réunit les plis et les resserre sur le côté droit. Relever sa robe des deux côtés et des deux mains est de mauvais ton. Donc les femmes ici sont invitées à marcher sur la pointe des pieds, à un endroit précis du trottoir, le centre du pavé, surtout pas aller sur les bords, tenir leur robe d'une certaine façon, autant d'efforts qui n'invitent pas à simplement marcher dans la rue et surtout qui rivent leur regard au sol et qui les déséquilibrent. Il faudra encore ajouter à cette concentration celle du bon comportement à adopter face aux hommes. Si la pluie vient à surprendre une femme sans parapluie, alors qu'un homme va pouvoir demander et se voir proposer l'abri d'un parapluie à d'un passant, une femme ne doit absolument pas se l'autoriser. Elle nous dit, toujours Madame Selnard, « Si vous êtes une dame, à moins que d'avoir un certain âge, il serait on ne peut plus inconvenant d'aborder un homme. » Les règles édictées dans ce manuel procèdent donc à éviter tous les contacts entre hommes et femmes. Une femme ne doit pas aborder un inconnu, un homme ne doit pas non plus se signaler à une femme quand bien même il la connaît. Madame Selnard toujours nous dit qu'à Paris, un jeune homme doit éviter de s'approcher d'une demoiselle de sa connaissance, et cela afin de ménager la timidité naturelle à son sexe. Dans la raison avancée ici, la timidité naturelle des demoiselles, nous pouvons lire une injonction destinée à contrôler également le comportement des jeunes filles, qui doivent ainsi adopter une pudeur, une réserve dans leurs interactions sociales. Ces stratégies d'évitement des contacts s'observent aussi dans le protocole à suivre en cas de passage simultané sur le trottoir, quand on se croise. Il s'agit alors de s'effacer, attention parce qu'il faudrait que vous leviez pour essayer de le faire, s'effacer en se tournant de côté, en resserrant les bras, en saisissant du regard la ligne qu'il convient de prendre pour ne point heurter la personne qui vient à vous. Les contacts physiques, mais aussi visuels, sont ainsi évités. On peut même lire dans ce manuel l'établissement d'une géographie du trottoir. Le haut du pavé, c'est-à-dire le côté des maisons, est donné prioritairement à une dame, à un homme élevé en dignité ou à un vieillard. Bon. Ces représentations et ces recommandations de l'usage de la ville par les femmes invisibilisent la réalité de la circulation, puisque en réalité, la population active se féminise considérablement du fait de l'expansion du secteur tertiaire. Les femmes issues des classes populaires travaillent dans la ville. La chaussée, par exemple, est le lieu de travail des vendeuses à la toilette, des étalagistes. Elles parcourent la ville pendant que les hommes sont à l'usine ou dans les bureaux. Elles parcourent la ville à la recherche de combustible ou de nourriture. Elles se retrouvent aussi dans les cours, dans les lavoirs ou même dans les jardins publics. La promenade bourgeoise, les grands magasins, les nouveaux espaces de loisirs, etc. sont autant de lieux de la modernité investis par les femmes issues de la bourgeoisie, mais leur pratique est invisibilisée ou rendue monstrueuse dans ces récits de flânerie. Et en ce sens, on peut penser qu'il s'agit d'un mécanisme de contrôle politique. Sans même entrer plus avant dans une analyse qui s'appuierait sur Lefebvre, cher à quelques-uns ici, et qui estime dans le droit à la ville que la ville est une projection au sol des rapports sociaux, et donc voir dans cette ségrégation de l'espace urbain le reflet de l'exclusion politique des femmes, on peut dire qu'il y a dans ces représentations, sinon une finalité, mais au moins un effet d'autorégulation. La mixité dans l'espace urbain est à éviter, elle est problématique, dangereuse politiquement. On pousse donc les femmes à envisager la ville comme un espace dangereux afin de leur faire préférer la sphère domestique, de laquelle d'ailleurs on leur renvoie une image extrêmement positive. On charge en fait les femmes de la peur des hommes. La présence des femmes dans la ville, symbolique d'une prise de pouvoir politique, met en danger leur domination du champ politique, leurs privilèges. Alors, face au hiatus qui oppose, d'un côté, la représentation d'une circulation dans la ville comme une expérience strictement masculine, à la réalité de la mixité dans la ville, les journalistes féminines que j'étudie représentent des déambulations urbaines faites par des femmes. Et moi, ce que j'aimerais voir ici, c'est en quoi ces récits sont potentiellement une appropriation littéraire de la vie, sans pour autant oublier le cadre contraignant dans lequel elles évoluent, la presse apolitique, puisqu'on n'établit pas de journaux féminins sans avoir précisément manifesté son absence de désir de parler de politique, la pratique littéraire contrainte et la ville comme espace hostile. Et donc, les stratégies nécessaires d'acceptabilité qu'elles mettent en place. Alors, la première d'entre elles, qu'elles mettent en place, donc que les journalistes mettent en place, c'est un pacte de lecture, une déclaration d'intention, les dégageant de la posture traditionnelle du flâneur. Je vous propose de lire l'introduction d'une flânerie publiée dans le journal des Demoiselles par Jeanne-Justine Foucault de Pussy. Tu me demandes de te faire une revue de ce qui se passe à Paris. Vous êtes bien curieuse, mademoiselle. D'ailleurs, comment le pourrais-je? Il me faudrait être penseur, rôdeur, observateur. Et de ces trois mots, il n'y en a qu'un qui puisse décemment former un féminin. Cependant, je veux bien pour te plaire devenir observatrice, mais tu sauras peu de choses si je ne te dis que ce que j'aurai vu. Aussi, je te demande la permission de deviner le reste. La rédactrice, ici, rejette les caractéristiques intellectuelles et d'occupation de l'espace propres aux flâneurs pour des raisons de genre. La décence féminine ne s'y accorde pas. En sachant, en plus, que dans la langue du XIXe siècle, la rôdeuse est une prostituée, il est aisé de comprendre que la très respectable rédactrice en chef d'un journal destiné à l'éducation des jeunes filles issues de la bourgeoisie de province ne peut pas se laisser identifier à une telle figure féminine. Et donc, de nouveau, on retrouve cette assimilation, cette même assimilation que dans les flâneries masculines. Celle qui circule dans la ville est une prostituée, ou tout au moins une femme dont la moralité, la vertu est douteuse. Jeanne-Justine Foucault de Pussy rejette également l'idée de se faire penseuse de façon cohérente avec la supposée incapacité des femmes à raisonner, à être dans l'abstraction, à incarner une posture d'intellectuelle. La seule compétence qu'elle s'autorise est celle d'observatrice, mais là encore avec une formule restrictive liée à l'impossibilité dans laquelle la rédactrice se trouve de voir réellement ce qui se passe à Paris. Donc les flâneuses vont offrir une représentation de la ville adaptée à ce qu'on attend d'une femme qui écrit. L'assignation des femmes à la sphère privée, domestique, les responsabilise de l'instruction des filles, dont on considère à l'époque, je le disais, qu'elle ne doit servir qu'à élever de futures épouses et mères. Les mères, les femmes, sont donc celles qui vont transmettre les valeurs morales et les codes de sociabilité nécessaires à l'accomplissement des jeunes filles dans le mariage. Cette finalité d'instruction, d'éducation, se retrouve dans la plupart des lignes éditoriales de la presse féminine et donc logiquement dans les récits de flânerie qui y sont publiés. Et si de nombreuses flâneries offrent un contenu instructif quant à l'histoire ou à la géographie d'une ville choisie, c'est sur la transmission des valeurs morales et des codes de sociabilité associés à la circulation urbaine que j'aimerais maintenant m'arrêter. Alors, les flâneries du Journal des Femmes, un autre journal connu du temps, relaient ces mêmes codes de sociabilité édités dans les manuels de savoir-vivre, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Elles initient ainsi, à travers leurs fictions et récits de flânerie, les lectrices aux usages mondains de l'espace urbain. Certains articles se focalisent sur un lieu de sociabilité impliquant un comportement social normé. La description de la promenade au bois, au parc par exemple, insiste dans ces articles sur la mise en scène sociale. Dans un article d'une certaine F de M, que j'ai pas réussi à identifier mais qui en tout cas a une énonciation féminine, décrivant Longchamp, la flâneuse va adopter une traditionnelle comparaison passé-présent au bénéfice de la religiosité du temps ancien, autrefois couvent de belles religieuses. Longchamp est devenu pour l'auteur le rendez-vous de toutes les vanités, de toutes les prétendues notabilités du siècle. Donc, lieu de promenade mixte, on y voit les jeunes femmes, et je la cite, jeunes, jolies, parées, désireuses de plaire, enivrées d'éloges, et jetant à peine un regard dédaigneux sur la foule pédestre qui s'arrête pour les admirer. Ces jeunes femmes, donc en représentation, cheminent en calèche à côté de fashionable, de dandy, d'hommes à la mode et à bonne fortune. Donc, rituel indispensable de sociabilité, la promenade nécessite l'acquisition des codes qui la régissent. Ainsi, plusieurs articles dans ce même journal des femmes invitent les lectrices à adopter les comportements et les vêtements adéquats à leur statut social et à leur âge lors de ces promenades, dont l'enjeu n'est autre que de flatter l'image sociale d'un époux ou d'en séduire un. Cette mise en scène sociale et factuelle, hein, ça c'est pas une représentation, c'est vraiment ce qui se passe, sonne comme une injonction contradictoire. Indispensable aux sociabilités parisiennes de la monarchie de juillet et donc conseillée aux femmes à qui on en indique les codes, elle est en même temps dénoncée pour sa superficialité. Allez vous y retrouver. On ne peut pas présumer de la réception de ce message par les lectrices, mais en tout cas, on peut au moins ici pointer le positionnement ambigu des journalistes quant à la théâtralité des civilités de la monarchie de juillet, nécessaire mais regrettable. Il faut encore noter que ces lieux de sociabilité urbains sont présentés comme répartis entre hommes et femmes. Quand les élégantes se rendent au bain, dans une chronique de 38, les jeunes hommes venus de province circulent entre les cafés, le bois et l'opéra. Cette distinction réaffirme la séparation des espaces en deux sphères genrées, le soin et l'intime aux femmes, la parade en public aux hommes. J'aimerais maintenant vous faire lire un second extrait des flâneries de Jeanne-Justine Foucault de Cussy, rédactrice donc en chef du journal des Demoiselles. Dans une flânerie d'avril 1843, elle donne la description verticale d'un immeuble et de ses trois occupantes, trois jeunes filles issues de milieux sociaux différents, qui sont autant de projections potentielles pour les jeunes lectrices. Une jeune aristocrate, tout juste rentrée de bal, est tellement déçue de ne pas avoir été invitée à danser qu'elle refuse de faire sa prière. En contrepoint, une ouvrière dont les rêves de robe plus modeste lui offrent un sommeil paisible, et une jeune fille qui concentre toutes les qualités du modèle féminin vertueux et qui aussi incarne la bourgeoisie. Au quatrième, une lampe vient de s'éteindre. Une jeune fille lisait pour s'instruire. Elle avait passé tout le jour occupée des soins du ménage de son père et de l'éducation de ses frères. Elle se couche le cœur content et après avoir élevé son âme à Dieu, s'endort doucement en rêvant au bonheur de sa famille, dont elle est comme une seconde mère. Donc ce genre de description verticale se retrouve fréquemment dans les récits de flânerie. C'est par exemple Jules Janin qui va initier ce qu'on appelle le regard d'Asmodée, donc Asmodée étant un diable qui soulève le toit des maisons et qui regarde à l'intérieur, ou alors dans les descriptions de ville, certains peut-être se souviennent de la description de la pension Vauquier de Balzac. En tout cas, ici, il ne s'agit pas de faire état des tensions entre les classes sociales, mais d'illustrer les valeurs qu'ont à incarner les femmes. L'instruction, le dévouement à la famille, la pratique religieuse. Voilà ce qui va rendre les jeunes lectrices heureuses. Voilà les portraits de citadines qu'il est bon de dresser en ce qu'ils poursuivent l'idéologie de la rédactrice, la fiction étant alors un outil à la livraison d'un message moral. Ce qui reste tout de même captivant dans ces flâneries féminines, c'est la coexistence de ces messages idéologiques à côté de percées que l'on pourrait qualifier, surtout aujourd'hui, de pratiques d'émancipation. Par exemple, et toujours sur la plume de Jeanne-Justine Foucault de Pussy, on peut observer des choix discursifs invitant les lectrices à parcourir la vie. Il va s'agir alors de flâner ensemble, de se promener en idées. La rédactrice va aussi utiliser l'impératif « Regarde, viens donc, suivons ces larges trottoirs ». Les femmes, ici, n'ont plus les yeux rivés sur le trottoir comme dans les manuels de savoir-vivre qu'on a vu tout à l'heure, le support littéraire devenant alors un lieu de l'appropriation de la ville. L'insertion de dialogues ou la description de la vie de Paris heure par heure dans une autre série d'articles relève de la même gageure d'hypotypose inclusive. On peut encore relever des portraits de femmes qui vont à contre-courant du modèle féminin traditionnel, pourtant conseillé par la même rédactrice. Ainsi, elle évoque qu'à 8 heures, les omnibus, je la cite, partent chargés de professeurs des deux sexes. Au-delà de définir l'omnibus comme un lieu de mixité, ce qui est un des topoïs de la littérature panoramique, elle évoque les femmes professeurs en ne faisant pas de distinction entre les sexes, alors que la réalité de l'intégration des femmes dans le corps enseignant est autrement plus complexe. Elle continue de montrer des femmes actives dans des milieux professionnels qui leur sont difficilement accessibles en mentionnant des femmes de lettres ou de presse dont les demeures se trouvent comme par hasard sur son itinéraire. Donc même s'il s'agit d'une déambulation fictive, restreinte au seul quartier bourgeois, au seul lieu de sociabilité nécessaire à la vie mondaine des lectrices, la volonté de les intégrer dans le paysage urbain, l'invitation régulière à occuper l'espace urbain, la mention de destinée féminine en dehors des modèles traditionnels, autant d'éléments qui me laissent penser que la littérature est un espace potentiel d'appropriation de la ville pour ces femmes que l'on invisibilise habituellement. Donc la dernière stratégie mise en place par les femmes dont j'aimerais parler avant de laisser la parole à Chris est une pratique dont je ne sais pas encore s'il s'agit d'une pratique d'émancipation, mais dont je sais qu'il s'agit d'un contournement de la norme. Je serais d'ailleurs intéressée de connaître votre docte opinion. Il s'agit du travestissement. Nombreuses sont les écrivaines au 19e qui se présentent sous un pseudonyme masculin pour intégrer plus facilement le champ littéraire. Logiquement, c'est le cas des journalistes et donc des flâneuses. Le travestissement leur permet de modifier leur rapport à la ville en leur donnant plus de liberté de circulation. George Sand, par exemple, raconte dans Histoire de ma vie comment et pourquoi elle a porté le costume masculin dans les rues de Paris. Avide de se déprovincialiser, dit-elle, et de se mettre au courant des choses lorsqu'elle s'installe à Paris en 1830, elle constate pourtant qu'il est très difficile pour elle, contrairement à ses jeunes amies berrichantes, d'assister, et je la cite de nouveau, aux événements littéraires et politiques, aux émotions du théâtre et des musées, des clubs et de la rue. Pourquoi ? Elle nous explique que, sur le pavé parisien, elle se retrouve comme un bateau sur la glace, comme quoi marcher, comme on nous l'a indiqué tout à l'heure, ne garantit absolument pas qu'on ne tombe pas. Elle nous dit « Les fines chaussures craquaient en 2 jours, les socs me faisaient tomber, je ne savais pas relever ma robe. » Il faut dire, on a vu que c'était un peu compliqué. « J'étais crottée, fatiguée, enrhumée, et je voyais chaussures et vêtements, sans compter les petits chapeaux de velours arrosés par les gouttières, s'en aller avec une effrayante rapidité. » Sur les conseils de sa mère, elle se fait donc faire un costume de petit étudiant de première année, nous dit-elle, redingote, pantalon et gilet gris. C'est alors qu'elle a accès à tout Paris. Je voltigeais d'un bout de Paris à l'autre, il me semblait que j'aurais fait le tour du monde. Et puis mes vêtements ne craignaient rien. Je courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures, j'allais au parterre de tous les théâtres. Et pourtant, le travestissement a ses limites. La jeune Marie Bashkirtseff tente de s'illustrer dans une carrière artistique un peu plus tard dans le siècle, et elle note dans son journal les restrictions auxquelles, en tant que femme, elle est confrontée et qui l'empêchent, selon elle, de devenir artiste, faisant de la libre circulation, de la libre observation, la condition même de l'état d'artiste, liberté qu'elle pense refuser aux femmes. Ce que j'envie, c'est la liberté de se promener tout seul, de venir s'asseoir sur les bancs des jardins des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Voilà ce que j'envie et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Elle continue. Ah, crénom d'un chien. J'aime bien celle-là. Voilà quand je rage d'être une femme. Je vais m'arranger. Des habits bourgeois et une perruque, je me ferai si laide que je serai comme un homme. Voilà la liberté. Celle-ci aussi est pas mal. Voilà la liberté qui me manque et sans laquelle on ne peut pas arriver sérieusement à être quelque chose. La pensée est entraînée par suite de cette gêne stupide et énervante. Mais même en me déguisant, en m'enlaidissant, je ne suis qu'à moitié libre et une femme qui rôde est une imprudente. Donc ce témoignage montre combien l'absence de libre circulation dans la ville par les femmes est un empêchement à l'accession au statut d'artiste. Toujours sous surveillance, la jeune fille ne peut pas observer tout ce que la ville lui donne à voir. On retrouve l'idée de danger, de ville qui fait peur, qui menace la vertu. Et le travestissement ne lui apparaît pas, comme à George Sand, être une panacée. Un habit d'homme la rendrait probablement libre du regard des passants, mais non de sa propre angoisse de se savoir femme dans la ville. La dernière proposition, « Femme qui rôde est une imprudente », montre à quel point l'idée de peur dans la ville est intériorisée par l'auteur. Et on devine à travers cette plainte que dans un processus d'autorégulation, d'autocensure même, elle n'envisage pas de circuler dans la ville. Le travestissement peut être aussi uniquement un artifice littéraire. C'est le cas de Delphine de Girardin, qui est moins connue que George Sand, mais pourtant sa contemporaine. Delphine de Girardin est une des personnalités littéraires qui ont beaucoup compté pendant la Monarchie de Juillet. Son mari, Émile de Girardin, étonnamment un peu plus connu, je ne sais pas pourquoi, crée la presse, un journal en 1836. Et bref, il lui demande de tenir un feuilleton hebdomadaire qui s'appelle Le Courrier de Paris. et qu'elle signera sous le pseudonyme du vicomte de Launay. C'est d'ailleurs un peu plus qu'un pseudonyme, elle crée vraiment un ethos littéraire à partir de ça. Pendant 12 ans, les lecteurs vont suivre ce faux dandy flâneur dans les rues, les théâtres, les salons d'un Paris en train de se moderniser. Et en tant que flâneur, cette fois, et non pas flâneuse, elle assume un certain degré de lecture sociologique de la ville que se refusent les flâneuses. Elle dessine notamment une carte sociale de Paris, qui vit dans quel quartier, il fait quoi. Si on prend un article du 11 janvier 1837, elle évoquait le bal de l'ambassade d'Autriche, lui permet de décrire les différentes pratiques de la danse selon les quartiers de Paris, traduisant un mouvement de kaléidoscope. La danse n'est alors que le motif pour représenter le poids des convenances du faubourg Saint-Germain, habité par l'aristocratie, et l'agitation joyeuse du centre de Paris, quartier populaire. Alors je vous lis, Paris danse, Paris saute, Paris s'amuse de tous côtés, tous les quartiers sont en émoi, le faubourg Saint-Honoré saute, vous le savez, c'est un effet du gaz connu, mais il danse aussi maintenant. Les grands bals commencent. Le faubourg Saint-Germain ne saute pas, lui, il croule. Mais il valse aussi, car il a jugé convenable de faire trêve au deuil de cour et de cœur en faveur des jeunes personnes. Quant au quartier du centre de Paris, il ne valse ni ne danse, il ne saute ni ne croule. Il tourne, il roule, il tombe, il se rue, il se précipite, il s'abîme, il tourbillonne, il fond comme une armée, il vous enveloppe comme une trombe, il vous entraîne comme une avalanche. Donc Delphine de Girardin décrit ici, avec un rythme assez soutenu, le succès de Musard, en fait, qui compose des morceaux à partir d'opéras connus. Les énumérations en ascendette donnent un aspect chaotique et menaçant aux nouvelles pratiques urbaines qui s'opposent au plaisir contrôlé et tout en façade du beau monde. Le tout Paris et la ville du luxe disparaissent ici au profit d'une représentation de la ville qui englobe de nouvelles couches sociales. Alors attention, elle ne cultive pas la promiscuité hein, quand même. Et là où, à mon sens, le travestissement de Delphine de Girardin est intéressant en tant que stratégie d'acceptabilité, c'est que dans ses chroniques, elle mélange des thèmes cohérents avec une signature masculine, donc la ville ici, mais aussi la politique, la critique littéraire ou la modernité industrielle, avec d'autres qui seraient attendus sous la plume d'une femme. Et elle ne va pas juxtaposer ces thèmes, mais vraiment les mélanger et les associer. Elle adopte donc la perspective traditionnelle du flâneur, mais le fait changer d'itinéraire en mettant l'accent sur ce qu'elle appelle les chiffons, sorte de clin d'œil moqueur de la femme qui se cache derrière ce pseudonyme. Ainsi, le 27 avril 1839, à partir de l'exemple d'une robe à 8 volants portée par une merveilleuse, nous dit-elle, soit au bal de la Chaussée d'Antin, soit dans un salon du Faubourg Saint-Germain ou dans le Marais, elle parvient à définir le fonctionnement politiquement hiérarchisé des quartiers de Paris, rapprochant par une métonymie chaque quartier d'une fonction politique. Elle nous dit « Les modes, enfin, ont, comme toutes les choses graves, des lois à subir, des règles à suivre, des degrés à prendre, des droits à établir. Cette législation en vaut bien une autre, et qu'on nous permette ce rapprochement. Les ministres proposent, la Chambre des députés adopte, la Chambre des pairs consacre, le gouvernement exécute. Eh bien, il en est ainsi des lois de la mode. La Chaussée d'Antin propose, le Faubourg Saint-Honoré adopte, le Faubourg Saint-Germain consacre et le Marais exécute et enterre. Donc la mode n'est ici qu'un bélier, un prétexte pour s'ouvrir les portes de l'analyse politique autrement interdite aux femmes. Ce qui m'intéresse dans les écrits de Delphine de Girardin, c'est que sa signature, la persona qu'elle met en place, montre l'intériorisation de l'exclusion des femmes de la sphère littéraire et urbaine et en même temps, elle se joue de ces injonctions en brouillant les codes d'écriture masculin et féminin et finit par composer une posture ambiguë, androgyne peut-être, celle d'un homme qui regarde la ville avec ses yeux de femme. On perçoit assez facilement à la lecture de ses chroniques que ce masque masculin lui sert uniquement de stratégie d'acceptabilité dans la mesure où paraître homme l'autorise à circuler et écrire librement. Et pour autant, je n'arrive pas à parler clairement de pratique d'émancipation pour Delphine de Girardin, parce qu'elle ne fait à aucun moment état, ne remet absolument pas en cause la domination masculine. En fait, elle s'y adapte. Donc pour conclure, je crois rapidement, oui, je dirais que la représentation de l'usage de la ville par les femmes dans les flâneries masculines invisibilise la pratique réelle et entretient un sentiment de peur qui, de fait, exclut les femmes de l'espace public. Les caractéristiques affichées comme constituantes de l'identité sociale ou littéraire du flâneur, donc une vie solitaire, une activité d'observation pour aller vite, ne semblent pas non plus inviter les écrivaines à endosser cette posture. et qu'elles soient conscientes ou qu'elles aient intériorisé les contraintes d'écriture ou de ségrégation de l'espace, les flâneuses produisent des écrits acceptables et donc dans une finalité de pédagogie, pas si éloignée de la lisibilité de la ville qui incombe aux flâneurs. En tout cas, elles ne remettent pas en cause dans leur flânerie la domination, leur exclusion de la ville, mais l'existence même de ces écrits est en soi une pratique de l'émancipation. Lorsqu'elles disent la ville, la représentent, elles rendent visible une circulation moins fantasmée des femmes dans l'espace urbain. Merci.